Como esta tenía, estará. C'est bon comme ça? Ok. Ben, bon, bonjour à tout le monde. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes, c'est lycée. Ok, donc, avant-hier, M. Desrosiers nous a parlé de rendez-vous. Celui qui nous a amené ici dans cette salle et qui nous a ramené encore aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, je vous parlerai d'un autre rendez-vous. Celui que vous avez avec votre notaire. Enfin, pour la France, c'est des notaires. Aux États-Unis, je ne sais pas si c'est des attorneys ou... Enfin, en France, ce sont des notaires qui s'occupent de ces affaires parce qu'il vous a envoyé une convocation pour affaire d'héritage vous concernant. Arrivé à son cabinet, votre notaire vous fait lecture d'un testament qui fait de vous un des héritiers d'un riche oncle d'Amérique, d'ailleurs, de Martinique. Ce dernier, donc cet oncle caché, vous lègue ainsi qu'à vos co-héritiers une immense propriété. Tout naturellement, vous chercherez à savoir plus sur ce testateur, celui qui fait ce testament, qui lui fait ce don, ce lait, sur vos co-héritiers, mais aussi sur l'héritage que vous recevez. Où est-il situé? Quelle est sa contenance, sa superficie, on va dire? La qualité du sol? Présence d'une rivière, d'une source? La topographie? Vue sur mer, ça vaut cher la vue sur mer. L'orientation du terrain par rapport au soleil, au vent, tout ça compte. Tant qu'à hériter de quelque chose, autant que ce soit bien. La possibilité d'exploiter ou de construire. Plein de questions légitimes vous viendront à l'esprit. Et là, aujourd'hui, vous aurez vite fait le rapprochement avec le sujet que je vais traiter. Le titre, c'est « La terre, notre héritage ». Comptez-vous à Genèse 15, s'il vous plaît. C'est la première fois que la Bible mentionne le terme d'héritier. Verset 1, on nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donnas-tu? Je suis sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'était la loi à l'époque. Maintenant, les lois ont changé, certainement. Alors l'Éternel lui dit, la parole de l'Éternel lui s'est adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, très important, on dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. En français, il y a deux autres versions, la version Neuchâtel qui dit, Abraham eut foi en l'Éternel. Et la version Darby, Abraham crut en l'Éternel. Alors, bien avant ce verset que nous venons de voir, au verset 2 où nous parle d'héritier, la Bible parle de postérité, la postérité d'Adam, des autres, etc., de Noé. Mais c'est la première fois qu'il y a une connotation d'héritage derrière. Le mot postérité, l'héritage n'était pas systématiquement lié à cela. Pour la première fois, nous voyons par exemple, juste une page avant, Genèse 12, au verset verset 7. L'Éternel parut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. On voit le terme postérité, mais aussi on voit cette possibilité de donner, de recevoir quelque chose. C'est la première fois que cette mention d'héritage est sous-entendue. Je donnerai ce pays à ta postérité. Être de la postérité, en tout cas de nos jours, ne fait pas de nous systématiquement un héritier. Les lois françaises, par exemple, prévoient qu'il y ait un minimum qui aille du parent à l'enfant, mais les parents peuvent disposer du reste de leurs biens et donner à des étrangers, à une association, et à n'importe qui. Donc, être de la postérité, être descendant, ne fait pas de nous systématiquement des héritiers. On peut être des héritiers par le testateur. Là, nous avons vu dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans Matthieu 5, verset 5. Le Père Pierre nous a dit dans son sermon, c'était le premier sermon du Christ. Et au verset 5, il nous dit, dans les béatitudes qu'il a citées, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » L'héritage va de pair avec testament. Là, s'il n'y a pas de testament, il n'y a pas d'héritage. Visez à ça. Et là, nous voyons qu'il s'agit d'un testament conditionnel. Il faut être débonnaire pour hériter. Il n'est pas dit heureux tous les hommes parmi les hériteurs en la terre, mais il nous a dit heureux les débonnaires. Et bien sûr, les autres versets des béatitudes accompagnent une attitude qu'on doit avoir pour hériter exactement de cet héritage. Nous reviendrons plus tard sur les qualités requises, justement pour prétendre à notre héritage, et revenons chez notre notaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà hérité ou si vous avez déjà acheté un bien. Ben, chez les notaires, c'est épais comme ça. Vous devez signer chaque feuille, paraffer chaque feuille, ainsi que la dernière. Vérifier tous les mots. Tous les mots, toutes les virgules ont leur importance dans un acte notarié. Donc lui, il vous aura lu, il va vous lire un document, un testament. Il va vous présenter le testateur, l'auteur du testament, son nom, sa qualité. Le testament parlera du bien, son origine, ça va nous décrire le bien précisément, sa valeur, parce qu'il faudra payer le notaire pour ça. Donc, lui, le pourcentage. Et donc, ça se passe comme ça en France, en tout cas, je pense qu'ailleurs c'est pareil. La liste des héritiers, donc tous ceux qui vont hériter avec vous, donc si vous êtes des héritiers universels, comme on dit, je ne veux plus, légataire universel, et les qualités requises en quelque sorte pour être héritier, ça veut dire il y aura le lien de filiation, le lien qui vous relie au testateur. Alors, trois choses, le testateur, le lien et les héritiers. Le testateur, lui, il est facilement identifiable. Allons dans Hébreux 9, au verset 14. C'est le verset 16 qui nous intéresse, mais nous allons prendre le verset 14 pour l'intelligence du verset 16. Au verset 14, il nous dit combien plus le sang de Christ, par qui l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Là, on voit le terme héritage. Et au verset 16, « car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On a parlé de Christ, on a parlé de purification, on a parlé de servir Dieu. Donc, il est clair et évident que le testateur, celui qui fait le testament, c'est le Christ lui-même. Donc, il s'agit en effet de lui, mais qui plus est, je pense que nous avons tous à l'esprit le premier chapitre de Jean 1, les versets 1 à 14, que vous pouvez voir plus tard. Il nous est dit que le Christ était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu et qu'elle a créé toute chose. Donc notre testateur, c'est aussi notre créateur. D'accord? Mais en plus d'être testateur et créateur, il est propriétaire. Parce qu'on peut très bien avoir créé et avoir vendu et ne plus être propriétaire. Lui, il demeure le propriétaire du bien dont il est à l'origine. Disons cela dans Exode 19. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez dans tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ça, c'est le sceau. La terre, c'est ma propriété. Notez le psaume 89, verset 11, que je vais juste vous lire. Il lui dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, non seulement la terre, mais aussi les cieux. C'est toi qui as fondé le monde et tout ce qu'il renferme. Toute la terre appartient à l'Éternel. Pour confirmer cela, allons dans Ésaïe 45. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Tu appartiens à me dire que quand l'Éternel finit une phrase comme ça, c'est qu'il dépose son sceau. C'est moi qui ai parlé, et ça ne bouge pas. Il est créateur des cieux et de la terre. Et il l'a formé pour qu'elle ne fût pas déserte. Il l'a formé pour qu'elle fût habitée. Cet extrait de ce verset que nous allons lire va nous servir de transition pour décrire le bien. Parce que nous avons parlé du testateur, maintenant nous allons parler du bien. Quand on s'intéresse à cette terre sur laquelle nous vivons, il faut reconnaître que c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est l'ouvrage d'un grand Dieu. C'est le même Dieu qui déclare à Job, allons dans Job 38, Job 38 à partir du verset 4, je vous conseillerais de relire et de lire encore l'histoire de Job, elle est vraiment très intéressante. Et là, c'est Dieu qui prend le relais d'Élu. Dieu dit à Job au verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce sont les anges qui ont assisté à la création de la terre et qui ont trouvé quelque chose de formidable. C'est pourquoi ils applaudissent, comme nous quand on entend de la belle musique et quand on voit quelque chose de magnifique. Donc, ils ont vraiment éclaté en chant d'allégresse quand Dieu a créé la terre. Alors, si vous cherchez à savoir, vous savez, en général, mais Cérès, c'est vraiment à la Terre, à tout ce qui nous entoure, tout montre que c'est une planète idéale pour la vie. Elle a été formée pour être habitée. On l'a mis tout à l'heure dans Ésaïe 45. Il y aurait tant à dire que la journée ne suffirait pas. Nous allons juste parler de quelques faits marquants. Pourquoi la vie sur la Terre, par exemple, enfin, comment la vie sur la Terre? L'oxygène, là nous sommes assis tranquillement, je suis là, je vous parle, vous m'écoutez, nous respirons sans faire attention. Mais nous avons de l'oxygène qui rentre dans nos poumons. Mais cet oxygène, il est présent dans l'atmosphère à 21%. C'est vraiment le taux idéal. Les études ont montré qu'avec un taux de 15%, jusqu'à 6 points en moins, nous suffoquerions tous. On n'arriverait plus à vivre, à respirer les animaux comme les hommes. Et avec un taux plus élevé, 4 points, donc 25%, les plantes et tous les matériaux combustibles, le bois, les arbres, tout ce qui est naturellement combustible, auraient brûlé beaucoup plus facilement, de façon quasi spontanée. Il y a juste ce qu'il faut pour nous, pour que nous puissions vivre. Et on comprend mieux pourquoi dans Genèse 2 au verset 7, il nous dit qu'il s'agit de souffle de vie. Pas trop, pas trop peu. Alors, non seulement il faut le bon taux d'oxygène, mais il faut qu'il soit de nature spécifique. Nous avons l'oxygène gazeux que nous pouvons respirer. Sur d'autres planètes de notre système solaire, ce n'est pas pareil. On le retrouve combiné à d'autres éléments, comme sur Vénus. On le trouve sous forme de dioxyde de carbone. Nous expirons du dioxyde de carbone, c'est un gaz mortel. Sur Mars, il s'allie au fer, ça devient de l'oxyde de fer. C'est ce qui donne à la planète cette connotation rouge, et pourquoi on l'appelle la planète rouge. Donc, ni trop ni trop peu, mais aussi de la qualité qu'il nous faut pour vivre. Le taux d'ozone, lui aussi, qui est un gaz, il est vraiment idéal. En trop grande quantité, la température de la Terre serait trop basse. Et s'il était plus rare, la température moyenne de la Terre aurait été plus élevée. Sans parler des rayons ultraviolets qui nous auraient bombardés. Depuis les années 80, vous vous souvenez, on a parlé du trou dans la couche d'ozone en nous demandant d'éviter d'utiliser certains gaz qui détruisent cette couche d'ozone. Réchauffement climatique, disons. La transparence de l'atmosphère est juste aussi comme il faut. Juste pour recevoir suffisamment de lumière, mais pas trop. Même la présence des nuages. C'est vrai qu'en faisant cette recherche, j'ai appris qu'il y a environ 60% d'ombre en permanence sur la Terre. En agriculture, on utilise des ombrières quand on a trop de soleil. Ayant préparé le sermon à l'avance, dans l'avion, je regardais effectivement, on voit les taches d'ombre sur la mer. Sur le sol, quand on est sur le sol. Regardez ce que nous sommes toujours dans Job 38, au verset 37. Regardons ce que Dieu dit à Job. Un verset qui pourrait paraître anodin. Mais il dit à Job, qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Alors non seulement le nuage pour l'ombre dont on a parlé, mais aussi les nuages pour l'eau. D'accord? Et qui peut avec sagesse, c'est vrai que je n'avais jamais pensé au nombre de nuages et tout. Donc le nombre de nuages, Dieu en prend soin pour nous, pour notre bien-être. Et dans le psaume 121, verset 6, notez-le, il nous est dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc même à ce niveau-là, Dieu fait attention à nous. L'inclinaison de la Terre, elle est de 23,5 degrés. L'axe de la Terre est incliné. Cette inclinaison était de 45 degrés, donc pratiquement deux fois plus qu'actuellement. Les zones tempérées, donc tous les pays occidentaux du nord, on va dire, seraient exposés à une chaleur turbulente en été et un froid excessif en hiver. Si cet axe était vertical, on aurait exactement la même saison en juillet ou en janvier. Pendant 6 mois, on aurait eu de la glace un peu partout. Et les 6 autres mois, on serait inondé par la fonte de ces glaces. 23,5 degrés, ni plus ni moins. Nous sommes toujours dans le genre 38. Et c'est vrai qu'en recherchant, on fait attention un peu plus à ce chapitre où Dieu montre à Job sa création. Au verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel, on a vu qu'il y avait des nuages et tout, mais il y a d'autres lois. Nous savons que la terre, elle tourne sur elle-même, tout en tournant autour du soleil. Elle tourne sur elle-même en une journée, ça nous fait le jour et la nuit. Et elle tourne, donc c'est une spirale, on va dire, autour du soleil pendant un an. Le soleil lui-même tourne sur lui-même tout en tournant autour du centre de la Voie lactée de notre galaxie. La Lune, on voit tous les jours, elle tourne également sur elle-même tout en tournant autour de la Terre. Et ce n'est pas sans incidence. Et là, je vais vous citer quelques documents de vulgarisation que vous trouvez soit à la bibliothèque, soit sur Internet. Je vous encourage à les consulter pour avoir une idée de la puissance divine, de voir que, comme disait M. Louis Jamais, que nous sommes vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, dans un ouvrage qui s'intitule « Si la Lune n'existait pas », il nous est dit « Sans la Lune, il est probable que la vie telle que nous la connaissons n'ait jamais pu voir le jour sur Terre. » Elle est à 385 000 km à peu près, mais sans elle, on n'aurait pas pu vivre sur Terre. Bien que la Lune soit notre satellite naturel, son influence sur notre planète est immense. Nous comprenons mieux pourquoi Dieu dit « Ni la Lune ne te frappera au cours de la nuit ». C'est la Lune qui organise les marées. Les marées ont pour but de nettoyer les côtes, entre autres choses, et de permettre que l'axe de la Terre reste incliné à la bonne inclinaison. C'est la Lune qui ralentit aussi la rotation de la Terre et qui harmonise vraiment tout ce qui se passe pour que nous ayons la vie. Sans la Lune, on nous dit que notre Terre serait un monde déchaîné par des vents violents et des cataclysmes, et seule une forme de vie primitive serait capable de résister à un tel climat. Elle nous protège des pluies de météores. On voit regarder la Lune, même à l'œil nu, on voit des taches, des cratères. On sait que ce sont des impacts de météores. Et elle nous protège donc de ces météores, tout comme Saturne et Jupiter, qui sont dans le même système solaire et qui travaillent comme des aspirateurs par la loi gravitationnelle. Elles attirent tout ce qui passe et nous protègent du coup. Vous comprenez mieux pourquoi Dieu parle de loi du ciel. Il n'y a pas de cordon ramenant la Terre à la Lune ni à Saturne, mais il y a vraiment des lois du ciel. On nous dit aussi dans cet ouvrage que l'inclinaison, l'obliquité de 4 des planètes telluriques, alors qu'il y a des planètes qui sont telluriques, ça veut dire qui ont du sol comme nous, et des planètes gazeuses. Donc, 3 des 4 planètes telluriques de notre système, les axes sont variés et ça a donné des catastrophes. Nous, la Terre, c'est une exception. Grâce à la Lune, on arrive à garder exactement cette inclinaison. Donc, notre existence sur la Terre dépend, dans une large mesure, de l'existence de la Lune. Dans notre révolution autour du Soleil, ce n'est pas tout à fait un cercle. Des fois, nous sommes très près, des fois, nous sommes très loin, entre guillemets. Nous nous approchons et nous éloignons du Soleil. Et ça, si on était vraiment trop près ou trop loin, on serait gelé ou brûlé. Nous nous déplaçons exactement à la bonne distance. Donc, nous voyons encore là que notre bien, c'est un bien précieux. toutes les dimensions. Nous avons vu pourquoi Dieu parlait à Job des dimensions de la terre, d'étendre sur elle le cordeau. Les physiciens, les mathématiciens ont découvert après les lois de la gravitation. On ne les connaissait pas avant, mais tout est suspendu dans l'air, tout tient à merveille, tout tourne en harmonie, uniquement par les distances et les masses. Et je ne parle même pas, parce que je n'aurai pas le temps, des lois électromagnétiques qui font tourner, parce que la Terre, il faut aussi savoir pourquoi elle tourne. Renseignez-vous, vous le verrez. Il y a donc un noyau électromagnétique au centre de la Terre qui permet justement cette rotation. C'est un des moteurs qui l'a fait tourner, sans compter l'action des autres planètes autour. Et là, on peut comprendre mieux l'émotion d'un monsieur qui s'appelle William Anders. Il a âgé aujourd'hui de 80 ans. Il était pilote du module lunaire de la mission Apollo 8. Et le 24 décembre 1968, il y a 45 ans à peu près, le module entra en orbite lunaire. Ça veut dire que la petite capsule Apollo 8 devint satellite de la Lune. Et pour la première fois, l'homme a pu voir la face cachée de la Lune. Parce que la Lune, bien qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour de la Terre, elle tourne à une vitesse qui fait qu'on la voit figée en quelque sorte. On ne voit pas la face cachée. Et ce monsieur, donc, à un moment, il s'est retrouvé derrière la face cachée de la Lune. Et il y avait une émission de télévision en direct avec des images où on avait la Lune et la Terre. C'est la première fois qu'on avait cette image. Et il a pris sa Bible en disant Genèse 1:1. Et je pense qu'il avait beaucoup d'émotion dans la voix en disant au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'article nous dit que c'est la première fois qu'un témoignage chrétien a été rendu dans l'espace quand l'homme a vu la Terre derrière la Lune. Mais David, lui, il avait, pas de satellite à son époque. Le psaume 19, il nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous allez le lire à la maison. On le chante aussi, les cieux proclament la gloire de Dieu, etc. Mais Paul aussi, un peu plus proche de nous, Paul, reportez-moi à Romains 1, s'il vous plaît. Verset 18, il fait ce reproche à ses contemporains en disant « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et de nos jours, on n'a jamais eu autant de connaissances techniques et scientifiques. En effet, alors, verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et je vous laisse lire le reste. Donc Paul faisait déjà ce reproche à ses contemporains et en parlant des perfections invisibles, des lois qu'on a citées tout à l'heure et qui maintiennent l'équilibre et l'harmonie autour de nous. Pour revenir donc à notre bien, en un mot, rapidement avec quelques mots, je dis la journée ne suffirait pas, on voit que la terre est propice à la vie. Rappelez-vous qu'elle a été créée pour qu'elle fût habitée, pour qu'elle ne fût pas déserte. Sa valeur est inestimable. C'est vraiment une planète privilégiée. Et ça c'est le titre de notre ouvrage. C'est un livre accompagné d'un DVD qui parle de la planète privilégiée. Même notre position au sein de la galaxie est privilégiée. On aurait été ailleurs dans la galaxie que la vie n'aurait pas été possible sur la Terre. Sans lune, sans soleil, on n'aurait pas eu la vie non plus. Mais comment ça se passe un peu en général? Revenons un peu plus sur Terre. Quittons la lune, Alors, psaume 65. Verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses montagnes. Dieu donne la vie avec l'eau. L'eau, c'est la vie. J'ai eu l'occasion de faire un petit sermon dessus, mais faites vous-même vos recherches sur la nécessité de l'eau dans notre vie. C'est quelque chose d'exceptionnel et d'indispensable. Savoir aussi que l'eau contient de l'oxygène. Marc 4, un peu plus proche de nous. Verset 28, il nous dit que la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est prête. Je ne parle pas du contexte, mais je parle de l'exemple qui a été pris pour montrer que personne n'a besoin d'intervenir dans le processus de la croissance. Nous voyons que la terre produit d'elle-même, il nous est dit. D'abord l'herbe, puis l'épi. Donc tout ce processus de croissance, personne n'a besoin d'intervenir. Tout est là, prévu par Dieu. Et que dire des hommes? Il y a eu beaucoup de sermons, beaucoup d'écrits sur l'homme. Je vous cite simplement 1 Corinthiens 15, 47, où on nous rappelle que le premier homme est tiré de la terre. Nous sommes poussière. Monsieur Pierre, le docteur Pierre nous l'a rappelé dans son sermon. Et David avait conscience aussi de ce qu'est l'homme. Je ne vais pas aller plus loin que le psaume 139, verset 14, où il dit que je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous savons que nous avons ce potentiel en nous d'être des choses merveilleuses, des créatures merveilleuses. Devant tous ces faits, on est passé très rapidement, et notamment devant l'extrême complexité de l'ADN, vous savez, dans l'ADN dont on parle sans arrêt maintenant dans toutes les enquêtes policières partout où on parle d'ADN, de nombreux scientifiques pensent de plus en plus à une notion de dessin intelligent. Alors, le dessin intelligent nous dit que c'est ils reconnaissent qu'il y a une création, mais qu'il y a aussi une évolution. On nous dit que c'est une théorie qui est maladroitement à cheval entre l'histoire d'Adam et Ève, que nous révèle la Bible, où Dieu est au centre de la création, et la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Donc, on sent qu'il y a une volonté de reconnaître quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus évolutionniste à 100%, mais on sent qu'il y a quand même une création derrière. On sent qu'il y a une présence divine ou une présence supérieure. Pour continuer, nous avons donc vu qui était le testateur. Nous avons pris connaissance de la nature et de la valeur du bien. Reste à voir maintenant les conditions requises pour en hériter. Ça, c'est là que c'est important. Revenons à Matthieu 5 de tout à l'heure. Toujours le verset 5. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Donc nous avons vu qu'on parlait de la terre, on a décrit un peu ses caractéristiques. Nous avons vu que c'est le Créateur propriétaire et testateur, le Christ, qui nous en parle, et c'est lui qui fait ce serment, ces fameuses béatitudes. On a vu aussi tout à l'heure qu'il n'était pas dit heureux tous les hommes, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires. D'autres versions disent les humbles de cœur. Le mot grec utilisé ici, c'est praos. Je pense que je le prononce bien. Il peut être traduit par douceur de disposition, douceur d'esprit, docilité, soumission. Et il est employé seulement trois fois dans le Nouveau Testament, puisqu'on parle de grec. Donc dans Matthieu 5,5, où on voit qu'on parle de débonnaire. Dans Matthieu 21, au verset 5, notez-le. C'est quand Christ demande à ses disciples d'aller lui chercher l'amant pour entrer dans Jérusalem. Et il cite ce passage, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne. » On trouve ce terme-là une deuxième fois. Et en fait, dans 1 Pierre 3, nous allons nous reporter, dans 1 Pierre 3, au verset 3, donc ce sont les recommandations de Pierre, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est là que ce mot « doux » est employé. C'est la troisième fois qu'il est employé dans le Nouveau Testament. C'est juste pour cadrer un peu ce que Christ entend quand il parle de « heureux les débonnaires ». Là, on parle de douceur et de paisibilité. Douceur et paix vont ensemble. Mais c'est la fin du verset qui est intéressante aussi. Il nous dit « qui est de grand prix devant Dieu ». On aurait pu être doux et paisible et ça n'aurait fait rien fait à Dieu, mais c'est d'un grand prix devant lui. Alors, il convient de noter dans Matthieu 5,5 qu'avant d'être débonnaire, Christ déclare heureux les débonnaires. Alors, d'autres versions emploient le mot béni ou bienheureux. Et l'encyclopédie Wikipédia nous rapporte que le mot traditionnellement en français traduit par béni ou bienheureux est l'original grec makarios. Mais elle précise, cette encyclopédie, une traduction pleinement littérale serait qui possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent. Ça veut dire que ce mot heureux, ça veut dire, quand on dit que quelqu'un est heureux, on dit que cette personne possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent. Et là, tout de suite, on a Jacques 1,1 qui vient à l'esprit. Avec les épreuves, il nous dit de voir comme un sujet de joie complète les épreuves qui sont nécessaires à notre croissance spirituelle. Et quand on continue le verset de Jacques, il nous parle de foi et de patience. La foi et la patience, ce sont des vertus parmi d'autres qui caractérisaient Abraham. On va revenir dans Genèse 12, rapidement. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Abraham, pourquoi pas son père Terah, pourquoi pas son frère, pourquoi pas Lot, pourquoi dans Genèse 12, d'entrée de jeu, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, etc. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre de la tribu. Il a choisi Abraham. Alors, il lui fait la promesse, chapitre 12, verset 6, on l'a lu tout à l'heure, de ta postérité possédera ce pays. Et, tournez la page, vous allez tomber normalement sur Genèse 15. Dieu renouvelle cette promesse au verset 2. c'est là qu'on a vu qu'il parlait d'héritier. D'accord? Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au verset 1, on nous dit après ces événements. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense en grand. Et là, il renouvelle sa promesse. Mais après ces événements, quels événements? Là, on vient de voir au chapitre 12, il lui fait une première promesse. Et là, il renouvelle cette promesse. Et entre les deux, nous avons trois chapitres, on va dire, deux chapitres. Le verset 13, le chapitre 13. Nous voyons que Abraham, on a dit que c'est l'oncle de Lot. Vous lirez le chapitre, l'histoire, c'est que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ne s'entendaient pas. Et Abraham, qui est l'aîné, dit à son nom, à son neveu, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Va, il n'y ait pas de querelle entre nous. Un homme de paix, on a parlé de la paix. Un homme de douceur, parce que je vois mal dire à son petit neveu, comme si je disais à Thibault, si tu vas à droite, je vais à gauche. Ça ne passera pas. D'accord? Douceur, humilité, considération des intérêts de l'autre. D'accord? Ce que nous recommande Philippiens 2 au verset 4, notez-le. Ayez toujours en vue les besoins des autres, en quelque sorte. Je paraphrase. Nous voyons déjà ce trait de caractère chez Abraham, tout court. Il n'a pas encore changé de nom. Au chapitre 14, qu'est-ce qui se passe au chapitre 14? Il est attaqué, il gagne la guerre contre les ennemis. Et on nous dit, au 14 verset 20, avec le butin qu'il a, il donne la dîme à Melchisédek. Il aurait pu garder pour lui, il était en voyage, n'oubliez pas, il avait quitté chez lui, il était en voyage. Il donne la dîme, marque de fidélité. C'est de la foi, la fidélité et foi sont synonymes. Il était fidèle à Melchizedek, à son Dieu, puisqu'il l'avait reconnu. Et tout de suite, le verset d'après, le roi de Sodome qui lui propose de garder les richesses, alors que Sodome était déjà étiqueté comme ville pécheresse. Genèse 13, 13. Donc, il n'a certainement pas voulu participer avec aisance au péché de Sodome, mais il a aussi, on peut dire qu'il a aussi ce passage de Actes 20, 35 en tête, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a dit au roi, non, tu gardes tes richesses. Il n'en voulait pas. Donc, nous voyons à travers ces juste quelques petits versets, qu'Abraham avait déjà les fruits de l'esprit qu'on retrouve dans Galates 5, 22. Vous les chercherez, vous les comparerez. Et ce sont des fruits que les chrétiens doivent avoir et qu'ils doivent développer. Et dernier trait de caractère, on peut le dire rapidement dans Genèse, c'est que quand Dieu lui a fait la promesse dans Genèse 12, 2, on nous dit qu'il était âgé de 75 ans. Et dans Genèse 21, au verset 5, à la naissance d'Isaac, il avait 100 ans. Il a attendu quand même 25 ans pour avoir un enfant. D'accord? C'est une autre marque de fruit d'esprit, c'est la patience qu'Abraham a montré. Et les héritiers doivent aussi développer les fruits d'esprit comme leur ancêtre spirituel. Nous allons voir quelques liens qui nous relient justement avec celui qui a reçu la promesse. Faisons de nous des héritiers. Allons à Romains 4, s'il vous plaît. Au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. On continue au verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. On saute au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Abraham n'est pas spécialement l'ancêtre de tous les humains, mais Abraham est le père de tous ceux qui ont la foi, on va dire. Allons à Galates pour éclairer un petit peu ce sujet. Galates 3 au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Pas seulement les descendants de sa lignée physique, nous allons dire. L'héritier a donc la foi comme son ancêtre. Nous avons vu qu'il avait la foi, ça on l'a dit et répété. Dans le même chapitre au verset 16, Galates 3 au verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule, et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. D'accord? Il s'agit d'une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. Le verset 28 du même chapitre, Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc à la descendance, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il faut être à Christ pour devenir héritier. Que faut-il donc pour être à Christ? Romains 8. Romains 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas l'esprit de Christ, on n'est pas chrétien. C'est une définition simple. Plus simple, il n'y a pas. Appartenir à Christ, c'est être sa propriété. D'accord? Vous allez noter acte 27 au verset 23. Et c'est Paul, je vous lis le verset. Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Vous voyez comment il exprime cette appartenance. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Appartenons-nous à Dieu? Avons-nous reçu son esprit? Allons dans 1 Corinthiens 6. Au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été, au verset 20, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons corps et esprit à Dieu, car nous avons été rachetés. Un peu plus loin, Paul aussi dans Tite 2. Au verset 13. Vous avez dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour toute bonne œuvre. Et on pourrait aller de verset en verset comme ça, en faisant une recherche sur appartenir à Christ. Et là, nous voyons qu'il faut être zélé pour des bonnes œuvres. On appartient à Christ, corps et esprit, et on est zélé pour de bonnes œuvres. D'accord? Être un vrai chrétien actif et zélé, être un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui s'est basé sur ce qu'on lit dans Actes 2:38. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est être de la postérité d'Abraham. Il faut avoir la foi pour se faire baptiser. Il faut avoir la foi pour croire en Dieu, pour croire en ses promesses. Et pour être héritier selon justement cette promesse. Je vous cite rapidement parce que le temps court. Il faut garder les commandements de Dieu pour lui être agréable. 1 Jean 3:24 nous dit que celui qui garde les commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous voyons donc que c'est Dieu qui donne à ce niveau-là. Il nous donne son Esprit pour que nous lui appartenions. Acte 5, verset 32, que vous notez également. Il nous dit que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit se donne à ceux qui obéissent. Seuls ceux qui obéissent peuvent recevoir le Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont la foi, qui vont au bout pour le baptême, pour s'engager, reçoivent l'Esprit de Dieu. Mais il faut savoir aussi que cet Esprit qui scelle notre appartenance à Dieu, Paul disait, ce Dieu auquel j'appartiens, cet Esprit qui scelle notre appartenance à Dieu peut se retirer si nous désobéissons. Nous voyons que Dieu donne l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Si nous gardons ses commandements, il demeure en nous. Si nous ne gardons pas ses commandements, il demeure pas en nous. Cet Esprit peut se retirer. Vous avez l'exemple de Saül, notez-le, je vous dirai le contexte. Dans 1 Samuel 16, il nous est dit au verset 14 que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque, il y avait les prophètes, les rois, certains en tout cas qui recevaient l'Esprit de Dieu. Et on nous dit que l'Esprit se retira de Saül. Il était encore roi, mais sans Esprit divin. Et vous connaissez certainement la suite avec David qui a pris le relais. Il conviendrait de lire vraiment tout le chapitre 4 d'Éphésiens, parce que ça nous donne vraiment le sérieux repère pour jauger notre vie de chrétien. Nous devons nous jauger en permanence. Éprouvez-vous vous-même, Paul le dit. Nous allons lire simplement la conclusion du chapitre 4 du livre d'Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Toujours la même image. Scellé, ça veut dire appartenir. Là, on est fermé, on appartient à Dieu, on est consigné en quelque sorte pour Dieu. Et il nous donne au verset 31 vraiment la marche à suivre. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si ces choses doivent disparaître de nous, c'est qu'elles y sont. N'oubliez pas ça. Sinon, il n'aurait pas cité ça. Si ces choses doivent disparaître, c'est qu'elles sont en nous. Et nous devons donc les faire disparaître. Et nous dit d'être bons les uns envers les autres, au verset 32, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et on pourrait citer bien d'autres passages qui montrent qu'on est pas héritier d'une fois pour toutes. Il faut se qualifier pour garder ce statut. Dans Matthieu 24, quand les apôtres ont demandé à Christ les signes de son retour, au verset 13, il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il n'a pas dit jusqu'à la fin de la matinée, jusqu'à la fin de l'assemblée cet après-midi, jusqu'à la fin dans le contexte de son retour. Matthieu 24, 13, vous le notez, vous allez vous dire au bord des prières. Toujours dans ce même contexte, nous voyons que dans l'Apocalypse, quand on lit le livre d'Apocalypse, il y a 8 passages. Dans 8 passages, les bénédictions attendent celui qui vaincra. Et nous allons lire le passage qui est directement lié à notre statut d'héritier. Donc, rendez-vous à Apocalypse 21. Et c'est dans le contexte très particulier que le docteur Roche nous a décrit de la venue de Dieu le Père lui-même sur cette terre. Verset 1, verset 6, mais nous allons lire le verset 7. Il nous est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. ces choses. Le docteur Roche nous a parlé de cet univers qui nous entoure. Nous, on a parlé de la Terre. C'est un premier passage. Mais la Terre fait partie de l'univers. Il nous hériterons ces choses. Vex est aussi synonyme de triompher. C'est le même mot qui est employé en grec dans quelques passages à méditer, notamment 2 Corinthiens 2. Verset 14, 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui a fait, qui nous a fait pour, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand. Alors, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je n'ai jamais fait attention à la fin du verset, en toute honnêteté. Vous savez, M. Arsenault nous parlait hier du sel. Juste un petit peu de sel balkanien, comme il disait. Mais là, si quelqu'un rentre ou quand quelqu'un nous rencontre, est-ce qu'il dit ça sent le chrétien? C'est important. Nous devons répondre en quelque sorte l'odeur de la connaissance de Dieu. Parce que Dieu nous fait triompher toujours en Christ. Ce n'est pas facile tous les jours, certes, ce n'est pas facile. Mais il nous fait triompher en Christ. Et le Christ lui-même nous a dit, Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Il n'a jamais dit que c'était un chemin facile. Il n'a jamais dit que c'était l'hypocrisie. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et Paul nous appelle à être ses imitateurs comme il est du Christ. Autrement dit, à vaincre le monde aussi. Nous avons donc la possibilité de vaincre pour nous qualifier. Allons dans 1 Jean 5, s'il vous plaît. 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On retrouve ici la foi d'Abraham, la foi des héritiers. C'est grâce à cette foi qu'on peut triompher du monde. Croire qu'il y a un héritage, croire qu'on aura des tribulations, mais qu'elles sont faites pour notre croissance. Nous en avons besoin. Tout ne sera pas rose chez nous. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pas simplement croire que Jésus est le Fils de Dieu, comme on nous dit, croire que vous serez sauvés. Non, croire et agir. Ça veut dire croire quand il nous dit tu fais, tu obéis, tu observes, tu changes. Nous devons faire tout cela. Il nous a laissé le mode d'emploi, nous l'avons. Il nous a laissé des exemples, nous les avons, ceux des prophètes, ceux des apôtres, ceux des chrétiens, et même depuis l'ère de l'Église que nous connaissons, de tout ce que nous avons vu, tous les témoins qui sont autour de nous, nous pouvons prendre exemple sur eux pour savoir qu'il y a cette possibilité de vaincre. D'accord? Oui, nous avons, mes amis, un merveilleux héritage. On l'a découvert rapidement. Je vous conseille sincèrement d'aller d'approfondir vraiment ces caractéristiques physiques de la terre. De voir quel sera notre héritage. On a eu des sermons sur ce travail qui nous attend. D'aider les gens dans le monde de demain. De les instruire avec la voix. Je ne sais pas faire. D'accord? On aura ce travail, on aura une terre à remodeler, à renouveler. Nous avons des articles, comment la terre sera-t-elle restaurée? Relisez ces articles. Éviterez-vous la terre? Relisez ces articles. Nous les avons facilement sur le site internet où vous demandez à votre ministre de vous les imprimer. On peut les retrouver. Ce sont des articles très inspirants qui nous mettent vraiment dans cette perspective de Dieu. D'accord ? Nous avons un merveilleux héritage qui nous attend et que nous partagerons avec le peuple que Dieu s'est acquis. Tout seul sur l'héritage, ça ferait beaucoup un peu, hein, d'accord? Et là, on sera plusieurs à partager cet héritage. Je vais entrer dans le détail des co-héritiers. Ce sont nos frères et sœurs. Ce sont ceux que Christ nous demande d'aimer comme nous-mêmes. Aussi bien que notre prochain, mais un peu plus ceux-là, même ceux qu'on pourrait ne pas aimer. Mais il faut absolument les aimer, il faut apprendre à les aimer. Alors cet héritage, c'est cette terre. C'est ce que vous avez vu en dehors tout à l'heure. Elle sera dans un premier temps réparée, restaurée. Et nous y serons. Nous aurons la main à la pâte. Au cours du millénium, ce sera un temps de rafraîchissement. Un temps du rétablissement de toutes choses. Vous allez voir ça dans Acte 3. Et nous serons dans le gouvernement de Christ à faire ce travail. Celui qui vaincra, ou je peux dire ceux qui vaincront. Plusieurs celui, ça donne du ceux en français. Celui qui vaincra, donc ceux qui vaincront, auront l'honneur d'assister le Christ. Et comme nous venons de le lire, celui qui vaincra gardera son statut d'héritier sur cette terre renouvelée, mais aussi sur celle que nous a décrite le docteur Roche. Cette terre spirituel, on va dire, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Excellent sermon sur cet avenir. Moi, j'étais juste avant. Là, je parle encore de choses physiques. Et là, il nous a parlé de choses beaucoup plus spirituelles. Et à ce moment-là, quand vous avez bien avalé tout ça, c'est là que le notaire sort son stylo et il vous demande de paraphrer les feuilles et de signer derrière. Alors, en général, sur un acte notarié, la dernière phrase, c'est l'ayant droit déclare accepter la dite succession, donc avec des points d'exclamation pour décrire le bien, et après lecture offerte, les parties ont signé le présent acte. Le notaire appose sa signature et vous apposez votre signature. Alors, qui dans la salle prend le stylo ou qui hésite à prendre le stylo? Je vous pose la question. Seul un insensé, à mon avis, refuserait de signer un tel acte. Un acte notarié qui fait de nous des héritiers sur cette terre à réparer et sur une terre à venir. Et pour terminer, je suis sûr que tout le monde sauterait sur le stylo, j'en ai qu'un. Attention. Pour Philippiens 1 au verset 6. Donc je disais que seul un insensé hésiterait ou refuserait de signer un tel acte. Et quand je regarde autour de moi, je ne pense pas en voir. En toute honnêteté, je ne pense pas en voir. Déjà, le fait d'avoir répondu à ce rendez-vous montre que nous ne sommes pas spécialement insensés. Et personnellement, j'ai cet espoir en moi, comme Paul dit au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Christ. Et là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actes à signer.